Merci Frédéric. Ravi d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai un parcours où je dirige un laboratoire de recherche en design. J'ai fait du journalisme, mais ma première base, c'est celui d'ingénieur en matériaux. Donc ça me fait du plaisir, une fois de ne pas être dans l'électronique, où chaque fois on me raconte plein de trucs, je dis oui, je paye, et puis avec les fonds qu'on arrive à trouver, mais je n'arrive pas à comprendre aussi bien que c'est avec les matériaux. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc le bois densifié, naissance d'un potentiel. Alors c'est une assez longue histoire. Ça résonne, j'ai un son un peu bizarre ici, mais non, je crois que ça va. Et je vais essayer de revenir vers vous avec l'apport du design dans la recherche. Parce que c'est ce que nous essayons de faire dans ce laboratoire. Alors je démarre avec Concorde, je vous rassure, il n'est pas en bois celui-là. Hein. Mais juste pour sortir du bois, de tous les éléments qu'on connaît, pour vous montrer la différence entre une performance technologique et une expérience convaincante pour l'utilisateur. Vous savez que c'est le seul avion commercial qui a pu voler à Mach 2, plus de Mach 2. J'ai eu l'occasion, en tant que journaliste, de le prendre, de voler à bord, de poser ma main à New York dans le cockpit. Et alors pour aller à New York, c'était fabuleux parce que. Vous leviez tranquillement, vous alliez à Paris, à prendre à Roissy, vous preniez votre avion à 11h15, vous arriviez à New York à 9h le matin, donc bien avant l'heure du décollage, et vous aviez encore toute la journée à Manhattan. Donc, performance technique égale expérience géniale. Mais au retour, vous faites quoi quand vous arrivez à 4h du mat sur le tarmac à Roissy parce que cet avion débile vole trop vite? Ça sert à rien. Donc les gens, ils disaient, ah, allez, je prends le Concorde, mon retour. Mettez-moi un avion de ligne, un lit en première, parce que ça coûtait très cher, je dors, il est passé, j'arrive, j'ai mon petit déj, et j'ai la journée devant moi. Au retour, donc performance technique égale expérience utilisateur nulle. Bon, il y a des gens qui voyageaient pour pas cher, c'était bien pour les fans de l'aviation. Donc voilà, juste pour vous dire que cette notion d'expérience utilisateur est quelque chose d'important dans la notion d'adoption, parce que quand on fait de l'innovation de rupture, c'est que l'innovation, c'est une invention, mais qui inclut aussi la notion d'adoption. Alors, si c'est en rupture avec ce que les gens connaissent, c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce qu'ils vont adopter quelque chose de fondamentalement différent? Qu'est-ce qui va permettre de reconnecter notre proposition au quotidien de façon à ce qu'ils l'acceptent? Alors ça, c'est le travail qu'on fait avec le laboratoire. Si je vous prends un autre exemple, ça, c'est des gens qui font une personne qui fait la recherche sur des habitations autonomes, donc c'est lié aux missions martiennes. Alors évidemment, aller sur Mars ne représente pas beaucoup d'intérêt d'envoyer quelques personnes pour vivre là-bas en haut. Mais par contre, pour tous les systèmes autonomes qu'on peut créer ici sur Terre à partir des recherches, c'est intéressant. Lui, il a des choses assez géniales en termes d'autonomie. Mais vous voyez que l'environnement, l'acceptation, c'est peut-être pas forcément la cuisine du futur ou votre appartement du futur que vous voulez avoir. Donc, nous, on joue sur la recherche en design. Ce n'est pas du design thinking. Je tiens à souligner qu'on ne fait pas 3 jours de consulting pour avoir des résultats miraculeux. Nous, on travaille entre de la créativité artistique et de la connaissance scientifique. Et on essaie de conjuguer les deux. Donc, la créativité artistique, c'est l'inspiration, c'est un regard critique, c'est comprendre aussi l'autre, pouvoir ressentir les utilisateurs, cette dimension culturelle et émotionnelle qui font qu'on va adopter quelque chose. Si des personnes adoptent des solutions bois, c'est en général parce qu'il y a des éléments rationnels, mais c'est aussi parce qu'ils ont un lien particulier avec la signification de ce matériau. Et puis, la partie scientifique dans notre laboratoire, qui est importante, c'est de dire qu'on ne va pas juste faire un truc cool ou déjanté pour faire la une d'un magazine. On veut vraiment comprendre ce qu'il y avait avant et quel va être notre rapport original au travers de la création artistique et comment ça peut influencer, avoir vraiment de l'impact sur l'utilisateur. Donc, on a un laboratoire de l'EPFL dans le bâtiment de l'École cantonale d'art de Lausanne. Notre mission, c'est vraiment de passer de la performance technique à l'expérience utilisateur, d'avoir des propositions concrètes. Si un design, c'est en faisant les choses, hein, c'est important, et d'aller vers de l'innovation durable. Quand vous produisez du sens, en général, ça tient dans le temps, et évidemment d'avoir des nouveaux champs aussi pour les artistes pour qu'ils soient intéressés à travailler avec nous. On travaille beaucoup d'entreprises, c'est important parce qu'elles apportent des moyens, elles nous aident à récolter des fonds, mais aussi elles ont des cas concrets, et pour nous c'est quelque chose d'essentiel. Dans l'équipe, on a des designers, des ingénieurs pour faire les prototypages. On travaille aussi avec des architectes dans l'équipe, et on a aussi des gens psychologues, des psychologues chez nous. Alors pas pour la thérapie de groupe, quoique des fois ça pourrait être utile, mais c'est pour vraiment comprendre quel est l'impact qu'on a sur l'utilisateur et pas juste se satisfaire d'un article ou d'une manchette de journal. Alors ces éléments d'implication du design et de l'art dans l'innovation, c'est très vieux. Hein. C'est souvent dit, ah, MIT Media Lab, Jean Chaud. Non, le Bauhaus, c'était lié à ça. Vraiment, les artistes s'emparaient des méthodes industrielles pour créer une nouvelle esthétique. On le voit aussi avec le style streamline. On voit avec le fonctionnalisme. On voit après avec tout ce qui est de la rupture du design, hein, quand on va remettre l'individu au centre qui va se réapproprier à la technologie, on va sortir du modernisme pour aller vers le postmodernisme et dire maintenant, il faut que les gens puissent s'approprier comme ils veulent les objets et introduire la culture populaire, avec beaucoup d'impact pour l'industrie. Hein, et s'advancer vraiment aussi les théories de la sociologie, donc bien avant qu'on leur perde. Dans le domaine électronique, on travaille beaucoup là-dessus. Des artistes qui étaient dans les universités pour dire, mais on ne va pas que faire des éléments militaires avec les réseaux numériques, on veut une appropriation sociale. Alors après, ces gens ont pris une certaine célébrité jusqu'à faire pas mal de moyens avec leur démarche, mais appuyé avec beaucoup d'artistes là-derrière. Ça, c'est le nouveau centre d'Apple à Silicon Valley. Alors voilà, maintenant, je vais revenir quand même sur le bois, puisqu'on était là pour parler du bois, mais je voulais vous donner du contexte, ce qu'on essaie de faire dans ce laboratoire. Alors, en l'occurrence, on a fait un travail sur le bois, dans la lignée de ce qu'avait fait Parviz Navi à la PFL sur le bois densifié. Donc, ils avaient réussi à montrer comment est-ce qu'on pouvait transformer un bois spécialement de l'épicéa, sinon en un, donc vous avez une densité d'à peu près 0,5, en un bois qui est aussi dur que les essences que vous pouvez récolter en Amazonie, et atteindre des densités de 1,4, 1,5, donc quasiment complète. Et cela sans ajouter de colle de produits externes, donc juste avec le processus de densification, pression, température, humidité, et en avoir la stabilité. Évidemment, le gros problème, la grosse difficulté, c'est quand soit vous avez la stabilité et puis vous avez perdu une partie, vous avez détruit en partie la lignine, entre autres, et donc le matériau devient friable, mais il est stable, soit vous gardez, vous préservez tous ces composants, mais il a quand même tendance à revenir dans sa position initiale. Donc, arrive à stabiliser le bois tout en préservant ses qualités sans injecter de matériaux exogènes, c'est vraiment un défi. Alors là, vous voyez une structure, par exemple, avant densification, et vous voyez la structure après densification. Ce qui est assez joli, c'est que vous allez voir le bois d'été, hein, qui est au centre, avec les cellules qui sont un peu plus épaisses. Mais vous voyez qu'ici, on a quasiment plus de porosité dans la matière. Ça, c'est la machine expérimentale qui avait été utilisée par Parviz Navi et son équipe. On l'a remise dans notre laboratoire. On a commencé à dire maintenant, très bien, ces petits échantillons de 4 sur 4. Alors, techniquement, c'est fantastique, mais on en fait quoi? Comment est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose qui intéresse les gens? La production de masse pour faire du parquet, c'est évidemment ce qui vient à l'esprit de tout le monde. Il y a encore beaucoup de travail pour avoir ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de commencer à travailler des objets, proposer des choses peut-être relativement petites, et qu'on pourra commercialiser avant d'aller vers des propositions volumiques plus larges. Donc, on s'est dit, d'abord, on va augmenter la taille des objets, parce que 4 sur 4, c'était petit. Et puis, on va commencer à regarder quel langage, quelle forme on peut faire avec ça. Parce que quand on fait cette transformation, non seulement on densifie, mais on peut aussi donner des formes à l'objet. Et les fibres donc, vont suivre la forme, donc c'est pas comme si vous ne perdez pas de la matière comme quand vous taillez l'objet. Et puis surtout, comme les fibres suivent la forme, eh bien, évidemment la résistance s'en trouve nettement améliorée. Donc au début, il y a tout qui éclatait, c'est une catastrophe, on pinçait les fibres, vous voyez les éléments, je vous ai montré, mais à la fin, on commençait à avoir des formes assez complexes qui devenaient assez lisses, et surtout, on a commencé à découvrir qu'on arrivait à faire des textures, on n'avait pas du tout anticipé ça, où les moules qu'on utilisait, la matière reproduisait des traces quasiment de quelques microns sur la pièce. Donc on avait des états de surface absolument hallucinants et totalement inattendus. Donc, dans les caractéristiques techniques qu'on avait, il y avait dans les performances mécaniques qu'on obtenait, la stabilité et surtout la capacité de mise en forme par des moulages. Mais évidemment, on a pu détecter là les contraintes formelles. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quelle angle. Les propriétés, si on pince les fibres, on crée des tensions internes. Des états de surface impressionnants, et puis évidemment des caractéristiques visuelles. Tout d'un coup, on est capable de conférer une expression au matériau. Parce qu'évidemment, les gens, quand ils achètent quelque chose en bois, comme je disais, souvent, c'est un objet, ils vont l'acheter parce qu'il a une fonctionnalité, mais aussi parce qu'il vous raconte quelque chose. Et c'est ça, la beauté aussi du bois. Donc, on arrivait à montrer des fonctionnalités nouvelles, des usages, un toucher très étonnant, une perception formelle, une expression visuelle, et donc qui vous place tout d'un coup dans un contexte culturel radicalement différent qui ouvre des nouveaux usages. Je vous montre les quelques pièces qu'on a fait avec des designers. Ici, une poignée de porte. On part d'une plaque vraiment plate. On est capable de donner cette forme, de densifier à l'endroit de l'axe où on veut un maximum de finesse et de la résistance mécanique. Et sous la main, on a une forme qui est ronde et qui vient dans la main. Et tout ça, c'est fait à partir d'une seule plaque. On ne fait plus que découper le contour et la pièce est finie. Une pince, alors ça c'est un artiste hollandais avec qui on a travaillé, il s'est dit je veux faire du bois qui casse le bois, donc il a fait un casse-noix, le casse-noix fonctionne. L'idée aussi c'est d'avoir une plaque, on lui donne cette forme, donc la plaque, on en découpe des tranches, on les assemble assez rapidement. Et donc ça, ici c'est à partir de pain de l'Oregon, ce fer qu'on a fait, la matière très uniforme avant le traitement, et vous voyez que non seulement on obtient la forme, on obtient les dents qui ont une assez bonne résistance, mais aussi tout d'un coup la pièce devient très expressive au niveau de son esthétique. Elle raconte vraiment sa capacité à pincer, à casser, sa forme. Tout d'un coup, on a vraiment une pièce qui affirme une identité très forte et qui donne une plus-valeur au bois importante. Alors les chaussures, moi je ne vends pas des chaussures, hein, je vous rassure, mais ça c'est un projet qu'on aime beaucoup, qui a été montré à Milan avec Wallpaper dans le cas du Grand Salon du Design. Le talon, près de la semelle, on a 20% de densification. Pourquoi ? Parce qu'on veut seulement de la légèreté et de la stabilité. À la pointe, on veut de la densité et vraiment de la résistance à l'abrasion. Donc là, on a montré des densifications différentielles qui vont de 20% à 100%. Et ça tient complètement. Alors après, on s'est amusé parce que le design, c'est aussi de la communication. Donc vous voyez, le patterning que vous avez sur la chaussure, on reprend les photographies au microscope électronique de la structure non densifiée en haut et de la structure complètement densifiée en bas. Donc ça, c'est pour un clin d'œil pour ceux qui apprécient la matière. Et ça donne une chaussure assez intéressante. Mais surtout, donc vous voyez, tous ces objets qu'on a, on ne va pas les vendre en tant qu'objet, mais montre tout d'un coup qu'on travaille avec des densifications différentielles, qu'on peut faire des textures, qu'on peut faire des éléments en trois dimensions, offre un champ d'application beaucoup, beaucoup plus large, qui tient compte pas seulement de la performance technique de la pièce, mais de ce que les gens peuvent percevoir, de ce qui va les inciter tout d'un coup à adopter et à comprendre ce matériau assez étrange qu'est ce bois densifié. Alors, on a la chance, à la fin du projet, d'avoir accès à avoir la galerie d'actualité du Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui est un des trois musées les plus visités en France, qui fait partie du Louvre, du complexe du Louvre. Et on est pendant 6 mois, toute la salle d'actualité. Aujourd'hui, on est toujours partenaire à ce musée pour d'autres éléments, mais qui montrent qu'on peut avoir un très gros impact quand on travaille avec ces nouveaux matériaux. On a été approché par différentes entreprises. En particulier, on a participé à l'école d'été de la Fondation Hermès avec ça. On a été approché par Vuitton, par Vitra aussi. Rolf Elbaum est venu au laboratoire. Malheureusement, ces entreprises, elles n'ont pas pour vocation de s'occuper du processus du bois. Elles vont acheter des pièces qu'elles vont assembler. Donc, pour l'instant, alors bien sûr qu'on a beaucoup d'autres projets, notamment dans le domaine électronique, donc je n'ai pas le temps non plus de faire la tournée de tout le monde, mais pour l'instant, très clairement, on n'a pas trouvé de partenaire industriel en Suisse dans ce contexte-là, parce que c'était à chaque fois des projets qui étaient très spécifiés autour d'une pièce ou une autre que les gens voulaient fabriquer. Et ça permettra jamais de rentabiliser, à mon avis, le procédé. Et c'est un peu dommage, parce qu'on a des clients potentiels comme Vuitton, Hermès, Vitra et d'autres qui sont intéressés. Donc c'est clair que maintenant, on va aller plus, probablement, malheureusement, s'orienter vers l'étranger, parce qu'on a pas des gens qui ont envie de travailler sur le processus du bois. On voit beaucoup d'innovations, nous, de notre côté, dans les structures, des choses, notamment, on a travaillé pas mal avec le laboratoire, avec l'IBOIS à l'EPFL qui font des structures. Mais après, sur l'objet lui-même, la manufacture de l'objet, pour l'instant, on voit peu d'industries et de possibilités d'innovation en Suisse. S'il y en a qui sont intéressés, on serait ravis que ça se passe en Suisse plutôt qu'à l'étranger. On espère poursuivre dans ce domaine-là et montrer que la perception est aussi se conjugue à l'aspect technique pour arriver vraiment à une innovation qui a de l'impact. Voilà, je vous remercie, puis je suis à votre disposition après, juste après la conférence. Après, je vais malheureusement partir pour une autre conférence ailleurs.